Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous allons parler de plein de choses ce matin, comme d'habitude. On va parler en deuxième heure. En fait, je vais vous poser la question. Avec les pannes d'électricité, est-ce que vous regrettez, si vous avez une voiture électrique, d'en avoir acheté une? Parce que on s'imagine toutes sortes de problèmes cette semaine pour les propriétaires de voitures, de véhicules électriques. On verra ça tout à l'heure parce que c'est vrai que, on l'a vu, le réseau électrique d'Hydro-Québec a été pas mal malmené par le verglas. Et ça a occasionné beaucoup de maux de tête. Est-ce que ceux qui roulent en électrique se sont arrachés les cheveux? Vous verrez, puis vous nous le direz surtout. On va également recevoir le nouveau dessinateur, le nouveau, depuis déjà un petit moment, c'est HD qui dessine Lucky Luke et c'est à s'y méprendre. Il est de passage au Québec avec nous parce qu'il y a un festival de la BD qui va s'ouvrir ces jours-ci à Québec. Beaucoup de monde qui vont à Québec pour des livres et également des dessinateurs de bandes dessinées. Mais en première heure d'émission, je voulais qu'on vienne sur une nouvelle d'actualité. Je pense qu'il faut qu'on creuse un peu. C'est qu'on a appris, puis c'est une nouvelle qu'on salue, là, on peut pas faire autrement. On a appris qu'on allait ajouter 900 lits en CHSLD. C'est une demande depuis très longtemps de la part de tout le monde qu'on augmente le nombre de lits en CHSLD. En même temps, le fait de dire ça, ça soulève aussi tout un pan en ce qui concerne les employés, parce que on a bien beau rajouter des lits, il faut aussi regarder qui va s'occuper de ces nouveaux résidents qui vont occuper ces lits-là. Alors, je vais vous présenter tout de suite nos invités pour discuter de ça. Puis bien sûr, je fais appel à vous, à votre expérience personnelle, à ce que vous vivez avec vos proches qui sont en CHSLD. Si vous êtes vous-même un résident, il n'y a pas que des résidents très, très lourds. Il y a beaucoup de colos, puis il y en a de plus en plus, on va leur dire ce matin. Mais il y a aussi des gens qui sont en CHSLD qui sont capables de parler d'eux-mêmes et de voir. Alors, vous me direz comment vous vivez ça, 514-790-9850, c'est le numéro pour pouvoir discuter avec nous ce matin. Jean Lacharité est vice-président de la CSN, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Lacharité.
Bonjour, Isabelle.
Paul G. Brunet est président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Poirier-Monette est conseiller en droit collectif à la FADOC, qui représente les gens de 50 et plus.
Tout à fait. Merci pour l'invitation.
Toujours drôle de dire ça. Hein? Personnes âgées, 50 et plus. Quand on regarde ça, 900 places de plus dans les CHSLD, en attendant bien sûr la construction de 30 maisons pour aînés d'ici 2022, de mémoire, n'est-ce pas, Monsieur Lacharité? C'est ce que dit Éric Girard, le ministre des Finances, quand il a présenté son premier budget. Il a dit, on va faire des maisons des aînés, en attendant, on va ouvrir plus de lits. Vous en pensez quoi, vous? Puis je vais faire un tour de table là-dessus. Je commence par vous, Jean.
Bien, écoutez, d'abord, tout comme vous, je tiens à souligner que c'est une bonne nouvelle, là, parce que il y a plusieurs personnes aînées, des milliers qui sont sur des listes d'attente. Et pendant ce temps-là, puis ils ont besoin de soins de longue durée. Pendant ce temps-là, plusieurs occupent des lits d'hôpitaux, engorgent les hôpitaux, engorgent les urgences. Alors, ça va améliorer aussi la première ligne. Ça va contribuer à cela. Donc, il faut saluer ça. Bon, vous avez parlé des maisons pour les aînés de Mme Blais, projet qui tient énormément à cœur à la ministre Blais. Écoutez, dans les réinvestissements qu'on a promis dans le dernier budget de M. Girard, il y a une croissance des dépenses pour le réseau de la santé et des services sociaux de 5,4%, mais il y en a presque la moitié qui va pour les maisons des aînés. Mais ça, c'est pour la construction, c'est pour du béton.
Ouais.
Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le personnel qui prend soin de nos personnes aînées. Vous savez, je l'ai vécu comme expérience personnelle, là, parce que ma mère a fini ses jours dans un CHSLD. Mm-hmm. La personne pivot, la salariée pivot dans un CHSLD, moi, je pense que c'est ce que j'étais en mesure de constater, c'est la préposée aux bénéficiaires ou le préposé aux bénéficiaires. Et on a énormément de problèmes de rétention de la main-d'œuvre dans ce secteur-là, puis encore plus d'attraction de la main-d'œuvre. Alors, je salue la création de 900 lits, l'ajout de 900 lits, mais j'espère bien que c'est accompagné d'un plan intégré d'attraction de la main-d'œuvre, notamment pour les préposés aux bénéficiaires, parce que si on crée des lits et on n'a pas le personnel soignant pour s'occuper des personnes aînées, on va avoir un sérieux problème. Bon, j'ose espérer, Mme McCann, qui est une ex-gestionnaire chevronnée du réseau, j'ose espérer qu'elle a pensé à cela, Maintenant, j'ai hâte de voir si c'est tout intégré, cette planification-là.
Paul G. Brunet, bon, comme protecteur des patients, des malades, quand vous regardez ça, Paul, je sais que vous pensez un peu comme Jean Lacharité, c'est-à-dire vous posez un peu la même question.
Oui.
Au niveau de la rétention, la capacité de rétention d'une main-d'œuvre qui est déjà très mouvante, on le sait, là, au salaire minimum... à moins d'être vraiment dans un milieu super stimulant, ce qui n'est pas forcément le cas dans les CHSLD, tu serais peut-être tenté d'aller ailleurs. Là.
Oui. Et pour avoir eu des entretiens avec Mme Blais, je suis très conscient qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. D'abord, il faut faire nos devoirs, parce que présentement, la situation est critique. On ne reçoit pas les soins qu'on devrait recevoir. Notre recours collectif, notre demande d'autorisation n'est pas là pour rien. Il y a au moins une vingtaine de griefs qui ont trait à des agissements systématiques dans les CHSLD, qui ont beaucoup trait au fait qu'il manque déjà du monde. Alors, il faut refaire nos devoirs là-dedans et, comme le dit lui-même M. Lacharité, nous assurer qu'on gardera notre monde, leur donner le goût de rester et donner le goût à de nouvelles personnes de venir pour couvrir ces 900
lits. Oui, mais des nouvelles personnes, Paul, ça veut dire quoi? Quand on parle de 900 lits, c'est combien de... C'est quoi? C'est au moins, combien on dit? 1000 personnes? 2000 personnes?
Probablement. Mais il y a toute une job, hein, Mme McCann.
Vous l'avez évalué, le nombre de gens qu'il faudrait pour répondre aux besoins des nouveaux 900 lits?
C'est au moins du 2 pour 1, M. Lacharité pourra me corriger, dans ce genre d'équipement-là.
Donc, on parle de 1800 nouveaux préposés aux bénéficiaires.
Vous avez des quarts de travail jour et nuit, vous avez des vacances, etc.
Jean Lacharité, vous êtes d'accord? On parle ici de 1800 minimum nouveaux préposés à engager?
J'irais même jusqu'à au moins 2000.
Mais on va les trouver où?
Ben voilà. Allez, Mme McCann a dit quelque chose d'extrêmement important quand on l'a rencontré. Elle dit ce réseau-là a besoin d'être réparé. Réparé plein de monde qu'on a poqué, qu'on a brassé, qu'on a bouleversé, à qui on n'a jamais parlé ni consulté. Il y a une grosse job à faire, autant au niveau du personnel infirmier que du personnel préposé. C'est des gars et des filles qui sont auprès des gens quotidiennement. C'est eux autres qui font la job.
Non,
en
mais
CHSLD.
Je
ne
sais pas si on réalise ce matin, on parle de 2000 oui. nouveaux employés de CHSLD.
Les soins de longue durée, c'est une industrie. Alors, il faut revamper cette industrie-là, donner le goût. Moi, j'ai tendu la main à Mme Blais. Si vous voulez, on va vous aider à vanter les mérites que l'on a à aller soigner des gens qui ont extrêmement besoin de nous.
Mais déjà, il faudrait augmenter le salaire.
Aussi, hein, au moins comme aux Outre-Granby.
Il faudrait qu'il y ait une formation.
Aux formations, ouais. Donner le goût et vanter les mérites de cette job-là. C'est très noble de le faire, mais encore faut-il enrichir la...
J'aimerais vous entendre condition. Là-dessus, Philippe Poirier-Monette. Vous êtes conseiller en droit collectif de la FADOC. Bon, 900 lits de plus dans les CHSLD, la FADOC le demandait. Ça aussi, depuis un moment, là, qu'il y a une augmentation du nombre de lits. Donc, vous trouvez que c'est positif. En même temps, vous avez beaucoup d'interrogations, vous aussi.
Tout à fait. On a beaucoup d'attentes. Là. La ministre McCann s'est lancée là-dedans. On espère qu'il va y avoir des ressources allouées pour le personnel. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Ça a été dit d'entrée de jeu. Il faut rendre les professions de la santé attractives. Il faut que ça soit fait dès les choix de carrière. Puis, on a eu un bon exemple de ce qui peut être fait à court terme, pas plus loin que lundi. Là. Je veux dire, il y avait un avertissement comme quoi qu'il n'y aurait pas de TSO lundi.
Temps supplémentaire obligatoire.
Et puis, bizarrement, les gestionnaires ont réussi à quand même faire une bonne job pour faire en sorte de limiter seulement en des cas exceptionnels le temps supplémentaire obligatoire. Donc,
là, vous parlez des infirmières?
Infirmières, entre autres. Ouais, mais je veux dire, il y a du temps supplémentaire obligatoire, il y en a. Il y en a chez préposés également.
Tout à fait, il y en a beaucoup. Ça, là.
Donc, juste ça. Puis, vous avez vu tous les reportages au courant des dernières semaines. Ouais. La première chose que les professionnels de la santé se plaignent, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Là. Choisir entre aller voir sa famille ou bien être obligé de rester au travail. Là, je veux dire, c'est une des raisons principales. Juste ça, on ramène des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en agence. On ramène aussi des gens qui sont peut-être à retraite, qui voudraient faire peut-être du temps partiel, on ne sait pas. Mais je pense qu'il y a des efforts, en fait, de gestion des ressources humaines qui peuvent être faits pour tout de suite faire en sorte qu'il y ait plus de main-d'œuvre, qu'il y ait un ratio différent, augmenter le personnel par patient. Et puis ça donne des meilleurs soins. Nos aînés au Québec méritent de meilleurs soins.
Et là, comment ça peut fonctionner, ça, Jean Lacharité? Mettons qu'on ouvre 900 lits. Dans les ressources publiques, il n'y aura pas le choix de respecter un certain ratio. Il est de combien le ratio patient préposé au public, Jean?
Ben malheureusement, ça n'existe pas.
On ne le sait pas?
Papier. On ne le sait pas. Là. Ça dépend Il n'y a pas de ratio d'établi dans les conventions collectives. Alors,
c'est magnifique, de toute beauté.
Ben, c'est ça. Alors ça, il va falloir regarder ça d'une part.
Parce que
il
j'allais vous dire au public, c'est moins pire. On peut s'attendre. Est-ce que c'est moins pire dans le public que dans le privé?
Je crois que oui.
Oui?
Cependant, ah, peut-être pas, M. Brunet, mais écoutez, je ne sais pas, mais...
Paul, t'en penses quoi?
Ce que je voulais dire... Ce que je,
ce oui, que allez-y, dire, Jean. Madame, hein?
Isabelle, ce que j'allais dire, là, c'est qu'on subit aujourd'hui là, les conséquences des mesures d'austérité. Hein? Je ne veux pas revenir là-dessus, là, mais c'est quand même ça qu'on vit aujourd'hui. Et on est dans un réseau de la santé et des services sociaux qui rend son personnel malade. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Moi, je siège au conseil d'administration de la CNESST. Il y a de plus en plus de réclamations à la commission. Et au niveau de l'assurance salaire, les coûts sont en croissance fulgurante. Ça veut dire que notre monde tombe au combat. Alors, il faut regarder ça de très près. Il faut réorganiser les services de façon à ce que les gens ne vivent plus de surcharge de travail.
Et ça, c'est un bon point que vous vivez. Ouais. C'est un bon point parce que...
Il va falloir qu'il y ait une coordination avec le ministère de l'Éducation aussi. Il va falloir les former, ces préposés aux bénéficiaires. Il va falloir qu'il y ait des ouvertures. Et ça passe par une... Puis pour que les jeunes s'inscrivent, dans ces parcours scolaires-là, il va falloir qu'ils sentent qu'il y a une revalorisation. Et là, j'espère que lors de la prochaine négociation, on va en tenir compte. Mais on s'en va en égo du secteur public, là. Il n'y a pas que les salaires, mais il y a l'organisation du travail également. Ouais. Et il faut revaloriser ces...
On va reparler, Jean, la charité de coordination, des problèmes de coordination. On va parler aussi, parce que vous avez parlé des économies qu'on pense faire à court terme, mais qui, dans le fond, se représentent à long terme des coûts probablement plus importants. Mais avant, je voudrais qu'on parle, avant la pause, je voudrais qu'on parle à Geneviève qui nous appelle. Vous êtes une préposée aux bénéficiaires, Geneviève?
Oui, en fait, je suis diplômée. J'ai travaillé là-dedans quelques années, mais et j'adorais ce métier-là. Ben franchement, ça a été un métier qui m'a fait vibrer. C'est le métier que j'ai préféré faire dans toute ma vie.
Vous le faites plus?
Tellement... Non. Non, j'ai abandonné ça parce que j'étais plus capable. Je rentrais à 7 heures le matin. Je quittais à minuit le soir parce que les filles rentraient pas. J'étais toujours rendue inquiète là, de savoir est-ce que telle personne est confortable, est-ce qu'ils ont pensé à donner le verre d'eau à une telle dame. Comment aussi des fois les gens ils peuvent être, à mon avis, surmédicamentés. Ça m'affectait beaucoup. Mais pourtant, c'est un métier que j'ai adoré puis que des fois j'y songe à retourner parce que je me dis, mon Dieu, je le sais ce que c'est, je le comprends, qu'est-ce que les filles et les garçons qui travaillent là-dedans, ils vivent, mais en même temps, je me dis, j'ai vraiment le goût de pas voir mon enfant parce que j'ai le goût d'aider la société. Mm-hmm. Je pense pas que je suis prête à faire.
Et Geneviève, qu'est-ce que... Mais c'est intéressant, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui ferait que vous repreniez le flambeau, là, vous l'avez laissé, qu'est-ce qui ferait là, que vous diriez, bon, ben aujourd'hui, il y a 900 postes là, qui vont s'ouvrir, 900 lits, c'est... On l'a dit, même, c'est probablement deux personnes pour un lit, minimalement, donc ça veut dire au moins 1800, 2000 préposés bénéficiaires, même s'il y en a qui vont être tentés de faire des économies en disant, regarde, on va rajouter de la tâche de travail, parce que c'est sûr que ça va rajouter de la tâche de travail à court terme, il va quand même falloir engager du monde. Vous, Geneviève, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance du terrain. Est-ce que vous voudriez y retourner sous certaines conditions améliorées? Si oui, lesquelles?
Ben c'est sûr que je trouve que c'est un travail qui vaut plus que le salaire minimum, à mon avis, mais surtout les horaires. Tu sais, de rentrer puis de pas savoir quand est-ce que tu t'en vas, de jamais voir ta famille. Tu sais, moi, j'aime avoir un horaire stable. Aussi, je faisais 17-15, fait que ça, je trouvais que c'était pas des chiffres qui étaient agréables. Tu sais, on faisait, mettons, lundi-mardi, off mercredi-jeudi, on travaille vendredi-samedi-dimanche, on est off lundi-mardi. Tu sais, c'est des horaires bizarres. Je comprends que je pourrais peut-être pas faire juste du lundi au vendredi deux jours, mais parce que pour donner la chance à tout le monde d'avoir un horaire qui est acceptable, sauf que de jamais savoir à l'avance combien de temps qu'on va rester au travail, puis d'avoir des horaires vraiment bizarres, qu'on peut jamais planifier notre vie à l'extérieur. Ça, c'est vraiment le qu'est-ce qui fait que j'y retourne pas. Et pourtant, il y a des fois que j'aurais vraiment envie d'y retourner parce que, sans prétention, je sais que je le faisais bien, ce métier-là. Je traitais les gens comme comme si c'était ma famille. Puis je trouve que ça manque un peu des fois. Puis il y en a, la majorité sont très très bons par contre, tu sais. Mais je sais qu'ils ont besoin des gens de cœur dans ce métier-là.
Ouais.
J'aimerais ça y retourner, mais les horaires, c'est vraiment les horaires qui fait que j'ai peur, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai le goût de voir mon enfant grandir.
Ben c'est sûr. Merci Geneviève de ce beau témoignage, puis on est convaincu que vous étiez une bonne préposée bénéficiaire, mais le problème, c'est ça, c'est que les bonnes personnes, on les écœure, on les tue à la tâche. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir, bien sûr, avec vos commentaires. Si vous travaillez en milieu de la santé, en milieu hospitalier, en CHSLD, bien sûr, on veut entendre votre connaissance du terrain. Quand vous voyez là, qu'on va rajouter 900 places en CHSLD, évidemment, on se dit bravo, au moins, ça bouge. En même temps, il faut être réaliste aussi. Puis c'est ça notre discussion de ce matin. On essaie d'être le plus réaliste possible, pas d'avoir des lunettes roses quand on regarde ce dossier-là, puis on se dit d'accord, 900 lits, ça veut dire 1800 à 2000 personnes de plus demain matin, là, si on est cohérent. On les trouve où, ces personnes-là? 514-790-9850. Ils s'en feraient partout. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On a Juliette avec nous, qui est une préposée aux bénéficiaires, justement. Bonjour, Juliette. Je pense que vous êtes pas tout à fait au stade de Geneviève, qui nous a parlé avant la pause, mais vous êtes juste sur le bord d'abandonner.
Oui, effectivement. Ben moi, je suis devenue préposée aux bénéficiaires. J'avais 40 ans. Ça fait 5 ans que je fais ça.
Ouais.
J'ai vraiment choisi ce métier-là par cœur. C'est un métier que j'adore. Ma paye n'est pas dans ma paye de toute évidence. Ce que je trouve difficile le plus, c'est que je vois pas que ça va s'arranger. Je vous explique, on devrait focusser sur la stabilité des employés.
Mm-hmm.
Et là, ça n'arrête pas de grossir. Ça ne fait que grossir. Les CIUSSS deviennent des grosses machines effrayantes. Il y a toujours un manque de personnel. Ils brûlent vraiment les gens qui sont stables et qui sont toujours sur leur poste, mettons, là. Ils ont toujours affaire à avoir du monde qui désagence, du monde qui ne connaissent pas les résidents. C'est tout le temps tout à recommencer. Quand ils disent ils tombent au combat, là, moi, j'ai un beau CHSLD. Je pense que vraiment, ça fait du sens, là. Mais il n'y a pas de stabilité. Puis les gens, ils ne travaillent pas pour ça. Il n'y a pas de stabilité, puis il n'y a pas de punition, il n'y a pas de conséquences à l'incompétence. Il n'y a jamais de conséquences à l'incompétence.
Et vous en voyez beaucoup, vous, de l'incompétence, Juliette?
Mon Dieu, énormément. Énormément. C'est triste, là. Je ne veux pas diminuer mes collègues de travail, mais écoute, c'est vraiment. Ils débarquent tout de suite dans le bureau du syndicat. C'est des histoires qui tournent, puis tu revois les gens, ils font des affaires, là, tu les revois revenir sur ton département, ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis ça va pas dans le bon sens, parce qu'au lieu de payer pour de la stabilité, ils font le contraire, ils grossissent tout ça, puis là, t'as des listes de rappels qui se finissent pas. Puis je trouve vraiment qu'au niveau, je pense que le problème est vraiment pas, parce que je parle d'incompétence, mais le problème n'est pas ces incompétents-là, c'est que ces incompétents-là sont jamais punis. Ils n'ont pas de conséquences.
Et quand vous dites incompétence, ça veut dire quoi? Est-ce que ça va jusqu'à la maltraitance des aînés? Parce qu'il y a eu...
Non, je vois pas ça, honnêtement. En tout cas, pas dans mon CHSLD. Je vois pas de la maltraitance. Mais faut se dire aussi, quand tu arrives...
Mais incompétent comment, Juliette?
Ben incompétents, ils écoutent pas les résidents. Dès qu'ils ont fini leur truc à faire, c'est assis, il faut que tu les cherches, sont cachés dans un coin. Tu sais, c'est pas...
Ils se tuent pas à la tâche. Il y a certains qui...
Non, ils se tuent pas à la tâche, non, effectivement. Ça se tue pas à la tâche, mais je trouve que le problème est pas là, parce que à un moment donné, tu te tues pas à la tâche non plus quand ça roule jamais comme il faut, puis que de toute façon, tu travailles toujours en double.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être de l'écœurement, puis à un moment donné, tu finis par dire, regarde, ben, là, tant qu'ils seront pas capables d'arranger le système, pourquoi j'en donnerais plus aux clients? Tu finis par avoir une attitude comme ça aussi dans les milieux de travail en général, pas juste dans les CHSLD. Merci beaucoup, Juliette. Lâchez pas, tenez bon, en tout cas. Merci bien. Jean Lacharité, je reviens à vous parce que je sais que vous devez nous quitter bientôt. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes, je vais le rappeler, vice-président de la CSN. Vous représentez des gens là, qui travaillent dans ces milieux-là. Vous dites qu'il y a un problème, il faut vraiment s'attaquer à la coordination parce que 900 nouveaux lits, ça va vouloir dire des casse-têtes pour organiser les horaires, déjà qu'on a de la misère. Les gens rentrent pas. Juliette nous décrit des gens qui sont visiblement un peu blasés de voir que ça marche pas comme ça devrait marcher. On a des méchants problèmes, là.
Oui, tout à fait. Et je pense que les deux témoignages que vous avez eus étaient très éloquents. La question de la stabilité des postes, la stabilité des horaires est fondamentale. Et les gens, aujourd'hui, veulent vivre la conciliation famille-travail aussi. Là, la première dame, Geneviève, disait, moi, je veux vivre avec mon enfant également, là, celle qui a abandonné. Il y a trop de personnel sur appel, il y a trop de personnel occasionnel, les gens savent pas quand ils vont pouvoir travailler, ils sont appelés des fois à dernière minute. Alors, il y a des pistes de solutions, et la meilleure preuve de ça, c'est que dans le 6 des Laurentides, il vient d'y avoir une entente avec notre syndicat pour stabiliser les postes, stabiliser les horaires, pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Alors, c'est possible d'organiser ça, c'est fort possible, mais il faut qu'il y ait une volonté. Et dans les mégastructures où on se retrouve, là, il y a beaucoup trop de centralisation. Et il faut qu'on délocalise un peu, qu'on donne de la marge de manœuvre aux gestionnaires pour qu'ils puissent faire des ententes avec les syndicats pour organiser le travail de façon logique, cohérente, et faire en sorte que les gens savent, bon, ben cette semaine, je travaille de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, et créer des postes stables, la stabilité est fondamentale.
Oui.
Et c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de l'écœurement dans le réseau là, de la part des travailleuses et des travailleurs, mais je pense pas que ce soit de l'incompétence. Il y a toujours des incompétents partout, là, dans tous les milieux de travail.
Mm-hmm.
Mais le dévouement du personnel dans les CHSLD, moi, je suis en mesure d'en témoigner, là, c'est absolument phénoménal.
Comment ça s'est passé pour votre mère, Jean Lacharité?
Ben écoutez, je veux pas personnaliser, là, mais ma mère est morte, elle avait presque 104 ans, il y a un an et demi.
Ah.
Et c'était exceptionnel de voir ça. Heureusement, elle ne faisait pas d'Alzheimer, mais elle commençait à faire un peu de démence. Mais je voyais ça au quotidien, là, dans la chambre, les préposés qui rentraient, puis c'est pas parce que j'étais là. Ma mère me le disait, je suis tellement bien traité, Jean, puis elle les connaissait tous par leur petit nom, tous et toutes. Et elle me disait, ils sont tellement gentils, ils sont tellement attentionnés. Et c'est des rapports de proximité absolument incroyables, des rapports même d'intimité, les soins personnels, les soins d'hygiène. Écoutez, là, c'est quelque chose, là. Alors, moi, il y a des gens qui il y a une madame qui disait tantôt, ma paye, c'est pas sur ma paye que je l'ai, là. C'est dans les relations avec les personnes aînées. Et moi, je pense qu'il y a moyen de revaloriser ce réseau-là, de revaloriser les métiers et faire en sorte qu'on puisse revenir à une possibilité d'attraction de la main-d'œuvre, mais d'abord de la rétention de la main-d'œuvre.
Mmh, mmh. Les gens qui s'occupaient de votre mère, Jean Lacharité, c'était des syndiqués CSM?
Non, même pas, c'était des
non,
syndiqués.
Non, même pas! FTQ! Mais il était fin quand même. Non, mais ce que vous dites, mais ça en même temps, les gens qui ont des proches en CHSLD, c'est comme au goût. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Tu peux être chanceux, tomber comme votre mère, 104 ans, c'est fabuleux d'avoir des gens qui s'occupent de toi. Mais il y a autant d'histoires, sinon plus, de gens qui ont des mauvais services aussi. Puis ça peut pas être comme ça.
Jean n'aborde pas la question de la supervision.
Ouais.
On a coupé dans la supervision.
Ouais. On va en parler après la pause, Paul Brunet. Merci beaucoup, Jean Lacharité. Je vous laisse aller. Jean Lacharité est vice-président de la CSN, la Centrale des syndicats nationaux. On va s'arrêter ici. Beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va vous donner la parole. On va revenir, bien sûr, sur des éléments avec Paul Brunet et Philippe Poirier-Monette de la FADOC. Et bien sûr, vos commentaires, 514-790-9850. On a avec nous un résident de CHSLD, justement, qui est prêt à témoigner. Bonjour, Daniel.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Quel genre de service vous avez dans votre CHSLD? Là? Puis, deuxième question, dans la foulée, quand vous voyez qu'on va rajouter des lits, est-ce que vous vous inquiétez que ce genre de service soit moins bon qu'avant, étant donné qu'on risque de vouloir faire des économies d'échelle, puis de prendre peut-être les gens qui s'occupent de vous, puis qu'on les mette sur plus de monde? Comment vous voyez ça?
Oh mon Dieu, vraiment, en ce moment, c'est inadéquat.
Mm.
Et puis, de toute façon, je veux dire, comme là, ils veulent faire des nouveaux CHSLD.
Ouais, des maisons des aînés.
Mais,
ouais.
Mais le problème, c'est que, je sais pas, le personnel, comment ils vont faire? Parce que présentement, il y a pas de pénurie, moi. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, c'est que il y a des personnes qui sont qui veulent travailler dans le réseau, mais vu les circonstances, ne viennent pas travailler sur le réseau.
Ouais. Mais croyez-vous qu'il y en a assez? Avec 2000 personnes, c'est pas rien. Hein? Faut les trouver, ce monde. On parle pas de 200, là. C'est 2000 minimum qu'on nous dit.
Ben, écoutez, regardez bien. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici dans le CHSLD. De toute façon, Paul, il me connaît. C'est,
ah,
c'est
vous le connaissez? Oui.
C'est Daniel Pilote. Et puis, je suis sur le recours collectif aussi en même temps. Maintenant, juste, c'est pas pour ça que je vous appelle, mais c'est seulement pour vous dire que présentement, c'est les tâches, pas les tâches, les corps de travail qui sont mal organisés.
Ouais, c'est ce que disait Paul, en fait. Tu parlais de supervision. Absolument. Aussi, on parlait d'organisation tout à l'heure aussi, le fait qu'il y ait trop de monde sur appel. Vous, il y a combien de gens qui s'occupent de vous, Daniel, dans une semaine, par exemple?
Dans une semaine, ben écoutez, on est ici, on est 35 dans le département.
Ouais.
Fait que
35 résidents.
Mm-hmm. Exactement. Il y a, nous avons des préposés. Ils sont à peu près, sont 4 sur le plancher.
Oh mon Dieu, 4 pour 35. 35 personnes.
Oh. 4 pour 35. Là-dessus, il y a un pivot, OK, qui monte au deuxième étage puis qui descend en bas. Donc, ça n'arrête pas pantoute parce que c'est une demi-personne. Okay? Et on la paye. Donc, elle fait 2 départements.
Et puis vous, Daniel, ouais, et vous, Daniel, vous avez combien de bains par semaine? Puis la bouffe, c'est comment?
Ben moi, vu que j'ai une... j'ai la parole facile, j'en ai 2.
Ah, c'est ça le truc. Pour avoir 2 bains par semaine, il faut se faire aller la petite boîte. Il faut se plaindre, c'est ça. Hein? Ouais.
C'est ceux qui ne peuvent pas s'exprimer qui est le problème.
Bien, clairement.
Je ne sais pas ce qui se passe dans leur chambre. Écoutez, bien, moi, c'est sûr que je ne me laisse pas faire. Hein? C'est sûr que s'il y a des préposés, soit qui se précipitent ou qui se dépêchent, j'ai fait ralentir.
Oui, je comprends.
Ils prennent leur temps.
Ouais,
mais
ouais.
Une personne.
Puis vous mangez encore. Daniel, excusez-moi d'avoir plein de questions, d'aller un peu vite parce que le temps va nous manquer.
Mais
j'imagine bien. Puis merci de pouvoir témoigner de ça parce que c'est ça qu'on veut savoir sur le terrain, c'est comment. Le temps que vous avez, qu'on vous accorde pour manger, par exemple, c'est combien ça? Parce qu'on nous dit souvent, mon Dieu, ils n'ont pas le temps de manger ou bien ils mangent leur souper à 4 heures de l'après-midi au changement de chiffre. Avec vous, c'est comment?
Bon, ben moi, c'est parce que j'ai un système de respiratoire, OK? Respiratoire pour... et puis, je dois rester dans la chambre et il y a une préposée qui vient me donner à manger. D'accord? Donc, elle vient le matin et le soir.
Vous mangez
moi, je mange 2 repas par jour. Parce que, vu que les repas ici ne sont pas adéquats, là, je mange peu pour le souper, mais je mange beaucoup pour le déjeuner.
Mm-hmm.
D'accord? Pour compenser, parce que la nourriture n'est pas bien bonne.
C'est encore des patates en poudre?
50-50. D'après moi, il doit mélanger les 2 entre la poudre et les patates en poudre.
Oh mon Dieu! Hey, on rit, Daniel, mais sincèrement...
Non, mais écoutez, ouais. Là, j'ai fait une plainte dernièrement. Je pense que il y a 50 fautes depuis 50 jours, parce que tous les jours, j'y prends en note. Et puis, je l'ai mentionné à Paul de ça, là, que, de cette plainte-là. Et puis, justement, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait comme changement? C'est les corps de travail et comment attirer les préposés.
Oui, okay? Paul, d'accord? Paul Brunion.
Comment on fait, dans le respect des employés, pour organiser les soins pour ceux qui vivent là.
Merci beaucoup, Daniel, d'ailleurs, de votre témoignage. Merci.
Plutôt que selon les priorités des autorités. Il faut que l'organisation des soins ait comme focus le malade, le résident. Une fois qu'on a fait ça, comment faire pour respecter les gens puis avoir des horaires de travail qui soient décents?
Comment
c'est
on
ça
fait?
Qu'on cherche.
On sait-tu?
Bien, c'est faisable. Il y a des places qui le font. Il y a des places où ça va bien. Ça va pas mal partout. Mais on dit que... la grande majorité des endroits, on a ces problèmes-là. Mm. C'est pour ça notre demande de recours collectif, d'ailleurs.
Oui, et ce recours-là, vite, vite, ça, c'est donc le Conseil pour la protection des malades.
Et Daniel Pilote.
Et Daniel Pilote.
Qui sont les co-demandeurs pour une demande d'autorisation pour des dommages-intérêts pour, depuis 3 ans, la maltraitance. Maltraitance, là...
Ça touche combien de personnes, votre cours?
Ça touche potentiellement les 37 000 personnes hébergées présentement en CHSLD public. Mm-hmm. Et moi, j'ai averti les autorités, les nouvelles autorités, que pour l'avenir, on est prêt à discuter pour avoir une nouvelle façon de soigner les gens. Mais pour le passé, on veut que les gens soient indemnisés. On n'aura pas traité, puis bouleversé, puis brassé, puis mis des couches à du monde qui n'était pas incontinent, puis pas offert des soins dentaires à des gens qui avaient mal aux dents sans que ces gens-là soient indemnisés. C'est ça qu'on veut. Pour l'avenir, je dis à Mme Blais, on est ouvert pour que les choses s'améliorent et je pense qu'elle... Elle le sait, elle le veut le faire, je crois, Mme Blais, là-dessus. Mmh. Comment cela va se passer? Comment on va ouvrir les 900 lits? J'ai demandé qu'on m'éclaire avant de venir ici. J'attends des nouvelles. Mmh.
C'est sûr que nous autres, au réseau FADOC, on l'a appuyé, ce recours collectif-là. Effectivement, il y a comme un problème systémique. Là. À un certain moment donné, je crois que... C'est sûr qu'il y a des pommes pourrites dans toutes les professions, mais je pense pas que les préposés se lèvent le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais maltraiter un aîné. » Je pense qu'il y a une nature du travail, l'organisation du travail qui fait en sorte que, bon, ben là, vous avez 2 minutes de changer une couche, 5 minutes de donner de la bouffe, puis à un moment donné, si vous le savez, là, vous prenez pas bien soin adéquatement de vos patients, puis ça affecte le moral, ça amène les gens à vouloir sortir du réseau, vous prenez du temps sur vos pauses, vous prenez du temps sur vos breaks de dîner, vous finissez plus tard, même si c'est pas rémunéré, tout ça, parce que vous voulez donner des soins adéquats à vos patients, alors que vous n'avez pas le temps. Donc, il faut donner des ressources à ces gens-là.
Oui, puis comme me l'écrit Yolande, dit c'est bien de parler des préposés aux bénéficiaires aujourd'hui, mais il faut souligner leur travail dans les résidences de personnes âgées. Ces gens méritent d'être bien traités et payés, car ils sont indispensables aux bons soins des patients.
Tout à fait.
Lors de la commission parlementaire sur le projet de loi sur la maltraitance, Daniel Pilote a dit une phrase extraordinaire. Il a dit « Quand vous me brassez le matin parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes peu de gens, puis là, vous me soignez dans mon fauteuil, puis vous me dépêchez à me faire manger, vous n'êtes pas violent, vous êtes maltraitant. Mmh. » C'est ça, la maltraitance. C'est pas violent. C'est de brasser le monde, puis pas les prendre respectueusement pour ce qu'ils sont, des êtres humains qui méritent tout le respect et la dignité que n'importe qui mériterait. Il y a un beau débat qui va se traduire avec ce nouveau concept.
Le problème, c'est qu'il y a de la maltraitance telle que vous venez de la décrire, mais il y a aussi de la violence. Mm-hmm. Il y a aussi de la violence, et celle-là, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est difficile de mettre le doigt dessus. Mm-hmm. Puis les gens, ils témoignent. Ils n'appellent pas la police. Moi, j'ai suivi le cas de... cette dame qui avait été ébouillantée, on a essayé d'aider son frère et tout, mais même les familles se disent, son fils, pardon, qui avec son frère, et même le fils puis son frère n'était pas sûr s'il fallait qu'il appelle la police. Ta mère est ébouillantée au deuxième degré. Moi, c'est ma mère, j'appelle la police. Puis je te regarde dans les deux yeux, puis ça va pas bien aller, tu comprends? Fait qu'il faut aussi que les gens prennent en main leurs proches, là.
Oui.
Il y a de ça aussi là-dedans.
Des fois, ils ont peur.
Mais ils ont peur, c'est ça le problème.
Ou les gens le constatent pas ou le savent pas. Ou, je veux dire, il faut qu'il y ait des campagnes. Là, je veux dire, juste sur la maltraitance financière.
Des campagnes pour dire « Occupe-toi de ton proche ».
Ben, des campagnes pour montrer ça, c'est un geste de maltraitance. Là. Juste changer brusquement une couverte là, pour vous. Le personnel est de mauvaise humeur. Non, écoutez, là, c'est quotidien. Il y a lieu à ce que vous fassiez une plainte. Là.
Exactement. Donc, on va s'arrêter ici. On vient tout de suite après. Beaucoup de gens qui veulent intervenir. Il nous reste quelques minutes. Philippe, on vous écoute.
Oui, bonjour. Bon, premièrement, je voudrais commencer par rectifier là, pour votre dernier appelant, là, M. Daniel.
Oui.
Les patates en poudre, c'est encore juste ça.
Il n'y a pas de mélange avec des vraies patates, c'est juste de la poudre. Hein, boy?
C'est juste de la poudre, puis M. Barrette, c'était de la poudre aux yeux, son histoire.
Hey, si vous ne l'aviez pas faite, je l'aurais faite, Philippe, je pense.
Elle
était facile, mais elle est bonne. Elle est bonne.
Mais c'est ça, non, comme je disais à votre recherchiste, là, moi, ça fait 5 ans que je suis dans le réseau. Ma conjointe, ça fait 14 ans. Elle a passé 9 ans comme préposée aux bénéficiaires avant de devenir infirmière. Il a fallu qu'elle change de domaine parce que les postes, il n'y en avait pas. Elle travaillait jour, soir, nuit, sur appel. Pour la vie de couple, c'était vraiment pas vargeux. Vous voyez, on travaille même pas sur les mêmes fins de semaine, même si on est dans la même bâtisse. Puis ce qui a trait là aux préposés aux bénéficiaires, j'ai beaucoup d'amis qui le font. Et puis, je vais vous dire, là, tu sais, ils disent tout le temps qu'il manque de personnel puis tout ça, mais on travaille des drôles d'horaires. On est fatigué. Des fois, ça peut faire du 9 jours, du 10 jours en ligne. Après ça, tu sais, il faut pas se poser de questions. Si à un moment donné, ben, la personne a décidé de se caler malade une journée. Ouais. Et puis là, ça met tout le monde dans la chenoute parce que, je veux dire, on est fatigué. Puis on a une journée durant la semaine, puis une fin de semaine sur deux pour réussir à faire tout ce qu'on a à faire comme tout le monde, là, dans la vie normale, ouais, là, t'sais.
Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Philippe, de votre témoignage. Bonne chance. On a Marie-Carole avec nous.
Oui.
Oui, vous êtes préposée. Bonjour, Marie-Carole. Vous êtes préposée aux bénéficiaires?
Depuis 11 ans.
Oui. Décrivez-moi ce que vous vivez un peu comme condition de travail. Quand on vient de dire le 900 lits de plus dans les CHSLD, c'est le gouvernement qui va instaurer ça. En même temps, là, on parle d'engager, il va falloir engager des nouvelles personnes. C'est un grand Exactement. Chiffre. Là, on parle de 2000 personnes. Vous pensez que c'est réaliste?
Oui, c'est réaliste, mais il va falloir prendre soin de ceux qui sont déjà là.
Voilà, c'est ça.
Ouais. En tant que préposée, moi, je travaille dans un hôpital, puis ça fait 11 ans que je suis préposée, puis ça fait un an que je songe à quitter ce métier, un métier que j'adore, un métier que je fais avec toutes mes tripes, toute mon âme, tout mon esprit. J'aime ça rentrer au travail, puis faire mon travail. Pour moi, qu'est-ce qui manque dans ce métier? Il manque de la gratitude. Mm-hmm. On n'est pas apprécié à notre juste valeur. On est vraiment, je pense que nous, dans les hôpitaux, ils nous maltraitent beaucoup. C'est comme si on n'est rien. Moi, je sens que c'est comme si on est des rejets. Ouais. C'est comme ça que je vois. Mais le jour qu'ils vont commencer à valoriser les préposés, le travail des préposés, moi, je travaille dans un hôpital. Quand je rentre le matin, je n'ai pas de rapport. Je connais pas les patients. Ben, il y a d'autres qui arrivent. C'est une équipe volante. Ils connaissent pas les tailles du
C'est team. Jamais les mêmes gens dont vous vous occupez. Donc, vous pouvez pas créer des liens vraiment avec vos résidents, avec les patients.
Non. Non, même avec aussi, des fois, on dit que le travail est lourd, le travail est lourd. C'est pas vraiment le travail qui est lourd, c'est avec les gens qu'on travaille qui sont lourdes. Mm. Tout le temps, je le dis, puis il n'y a pas de continuité de soins.
Ouais.
Aujourd'hui, tu travailles avec une préposée, demain, t'as un autre.
Ouais.
Puis, je trouve ça malheureux. Puis, la chose aussi qui me dérange en tant que préposée, moi, c'est quand tu commences à donner à manger à un patient, puis ils arrivent, il faut que tu te dépêches parce que ce patient-là doit partir en examen. Mm-hmm. Puis le patient laisse son cabaret. Il y en a qui veulent pas partir parce qu'ils veulent finir leur déjeuner, ils veulent finir leur café. Ça va être froid quand ils vont être de retour. Mais ils sont obligés de laisser pour aller passer un examen. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que les patients puissent manger tranquillement sans les déranger, puis nous donner du temps avec les patients parce qu'ils nous dérangent constamment. Moi, je dis que je ne suis plus préposée aux bénéficiaires, plus préposée aux infirmières, plus préposée aux gens, parce que je trouve que je ne donne pas assez de temps à mes patients.
Wow, c'est un témoignage très, très fort que vous faites, Marie-Carole. Merci beaucoup, vraiment. Vous en pensez quoi? Il y a beaucoup de réactions ici dans mon studio, là. Philippe,
beaucoup
Paul.
D'ouvrages, ouais, beaucoup ouais. d'ouvrages pour revamper ce réseau-là, revamper les jobs, remotiver nos gens et éventuellement attirer du monde. Beaucoup de
valeur.
Mais je veux continuer à croire en la parole que Marie-Blaise a dite là-dessus.
Regarde, j'ai une gestionnaire qui m'écrit, là, une gestionnaire du réseau de la santé. Elle travaille en ressources humaines. Elle dit « L'ajout de 900 lits me donne le vertige. » Votre interlocuteur parle, ça c'est toi Paul qui parlait, d'un arrimage avec le ministère de l'Éducation. C'est vrai, nous avons... elle dit, on a parti des corps d'étudiants, de préposés bénéficiaires dans nos établissements pour rendre la formation plus intéressante. On a une excellente collaboration avec les centres de formation professionnelle de notre région, mais on a de la misère à remplir les classes.
C'est sûr que ça va demander beaucoup d'ingéniosité.
C'est ça le problème. Elle dit, les conditions de travail intéressent personne. Les salaires sont pas à la hauteur. La responsabilité est énorme par rapport aux aînés. Là, Marie-Carole nous dit, en plus, je travaille quasiment pour le personnel. J'ai pas le temps. Le temps, il manque. Elle veut du temps pour créer des liens avec les gens pour qui elle est là, mais aussi avec des collègues. T'as jamais les mêmes collègues. C'est-tu assez plate de travailler dans une place comme ça? Imaginez. On fait quoi, Paul, Brunet?
Ben, on réorganise puis on revampe tout ça et je sais pas, tu sais, il y a des experts, il y a du monde qui a été élu là-dessus, on fait des promesses, on va voir ce qui va arriver, mais c'est sûr que ça peut pas rester ainsi. On n'a plus les moyens, on n'a pas l'audace de faire mieux. Si ce n'est pas le cas, ben, je ne sais pas ce que ça va donner.
Merci beaucoup, Paul G. Brunet, président porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Philippe Poirier-Monnette, conseiller en droit collectif à la FADOC. Merci beaucoup, Philippe.
Merci à vous.
On suit ce dossier, bien sûr. Il devrait y avoir des annonces, mon petit doigt me dit, dans les prochains jours, semaines. Nous verrons. À tout de suite, tout le monde. Vous restez là, bien sûr.